Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un invité de marque important que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle Monsieur Marc Rousset. Monsieur Marc Rousset. Je vais vous le présenter dans un instant. Il a des titres assez extraordinaires, il faut bien dire. Marc Rousset. Alors, je lis sa propre notice, hein, HEC. Voilà, bon, d'accord, HEC, hautes études commerciales, docteur et sciences économiques, diplômé des universités. Tenez-vous bien, parce que ça vous étonnera presque lorsque vous l'entendrez parler de l'Amérique. Bien. Diplômé des universités Columbia et Harvard. Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est un ancien haut dirigeant d'entreprise, hein, c'est pas un intellectuel comme ça qui sort de ses bureaux, hein, ou de son université, simplement, alors qu'il est universitaire, bien sûr
politique.
Aussi. Chroniqueur, économiste, écrivain, auteur de la nouvelle époque, de la nouvelle Europe de Charlemagne. La nouvelle Europe de Charlemagne. Écoutez, ça vous met déjà sur une piste pour ce que vous allez voir tout à l'heure. Bien. Préfacé par Alain Perfit, s'il vous plaît. Il en appelle à un sursaut salvateur et démontre dans ce livre que l'avenir de la France et de l'Europe est à l'Est. Hein, ça, c'est sa théorie, vous allez voir, vous allez l'entendre. Et non pas avec l'Amérique. Je dirais presque surtout pas avec l'Amérique. Voilà. Alors c'est lui. Et alors pour mieux indiquer son esprit, je vais, parce qu'il le fait lui, ouvrir son livre en mettant d'abord des citations. Et il y a plusieurs pages de citations, je ne vais pas vous les lire toutes, mais je vais en prendre quelques-unes pour vous montrer leur diversité et combien notre invité a eu besoin pour se présenter d'avoir des références et d'énormes références, vous allez voir, c'est pas n'importe qui le cite, hein, pour bien montrer qu'il n'est pas seul dans sa pensée, dans son projet, parce que c'est un grand projet qu'il a, et qu'il cherche à proposer partout. Voilà, écoutez, d'abord, un constat du président François Mitterrand. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant, une guerre à mort. Elle est énorme, cette citation de Mitterrand.
Et hein? Par Mitterrand.
C'est pas un extrême droite.
Ah non.
Bon.
Et c'est prémonitoire d'ailleurs.
Bien. Deuxième. Cette fois, c'est Charles de Gaulle. Il y en a plusieurs des citations de Charles de Gaulle. Je n'en citerai qu'une ou deux. La vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Charles de Gaulle, novembre 63, cité par Alain Perfit. C'était de Gaulle. Voilà. Ensuite, l'Europe. Alors là, c'est un tout nouveau, un petit nouveau qui vous parle là. Ah, merci bien, c'est gentil ça. C'est de l'eau qui arrive sur le mot. Pardon, excusez-moi. Merci Claudia. L'Europe doit se faire avec les nations et pas contre les nations. L'UE, c'est l'Union européenne, bien sûr, mais l'UE dispose de moins d'une décennie pour se refonder ou pour disparaître. C'est Philippe de Villiers, s'il vous plaît. Bon. Ensuite, le général de Gaulle, encore une fois, cette fois une conférence de presse de juillet 1964. Selon nous, Français, il s'agit que l'Europe se fasse pour être européenne. Une Europe européenne signifie qu'elle existe par elle-même et pour elle-même. Autrement dit qu'au milieu du monde, elle est sa propre politique. Voilà. Et enfin, ensuite, une autre, de Gaulle aussi. L'Europe intégrée, ça ne pouvait pas convenir à la France, ni aux Français, sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis. Ah oui. C'est Alain Perfit dans C'est de Gaulle.
Un traître payé par les Américains, Jean Monnet. Les gens ne savent pas.
Connu, ça, c'est connu.
C'est archi connu, oui.
L'idée européenne est née d'ailleurs aux États-Unis avec Jean Monnet et les autres.
Qui a même demandé dans les années 43-44 aux Américains de se débarrasser de Gaulle. Monnet a demandé ça aux Américains.
Oui, mon invité, il se sent déjà autorisé à parler tout de suite pour renchérir. Voilà, alors ensuite. Gerhard Schröder, s'il vous plaît. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier d'Allemagne, il n'y a pas longtemps. Les moins jeunes s'en souviendront, en tout cas.
De l'Axe Paris-Bain à Moscou.
Il a été un grand chancelier, finalement, lui. Alors, je le cite. « Si l'Europe veut garder son statut de puissance aux côtés des États-Unis et des pays émergents comme la Chine et l'Inde, elle a besoin d'une relation stratégique avec la Russie. Ben, » voilà. Alors, il y en a plus beaucoup de citations, rassurez-vous, chers auditeurs, mais ça vous cerne, monsieur Marc Rousset, qui est là à ma droite. Hein. D'où provient cette terrible vague? Alors, ça, c'est une vieille citation. Et figurez-vous la situation de Stefan Zweig. Mmh. Stefan Zweig est un auteur autrichien, sur lequel, quand j'étais à Berlin, j'ai fait ma thèse, pas ma thèse, mon diplôme d'études supérieures, sur cet écrivain-là, die Künstlerproblematik bei Stefan Zweig, c'est-à-dire le problème de l'artiste chez Stefan Zweig. Il écrit ça en 1925. D'où provient cette terrible vague qui menace d'emporter tout ce qui est particulier dans nos vies? Quiconque y est allé le sait. D'Amérique. Sur la page qui suit la Grande Guerre, les historiens du futur inscriront notre époque qui marque le début de la conquête de l'Europe par l'Amérique. Stefan Zweig, autrichien.
Prémonitoire.
Autrichien, écrivain mondialement connu, oui. Encore lu maintenant en France d'ailleurs. Il a été traduit d'ailleurs dans le monde entier. C'est extraordinaire, Stefan Zweig.
Il a eu le malheur de se suicider au Brésil, mais enfin.
Il s'est suicidé en 1942 au Brésil avec sa secrétaire.
Pensant que la victoire du Reich était inéluctable.
Oui. Bon. Alors, d'Amérique. Sur la page qui suit la Grande Guerre, ou pis encore, cette conquête bat déjà son plein. Il parlait en 1925, il y a 100 ans. Cette conquête bat déjà son plein et on ne le remarque même pas. Chaque pays, avec tous ses journaux et ses hommes d'État, jubile lorsqu'il obtient un prêt en dollars américains. Nous nous berçons encore d'illusions quant aux objectifs philanthropiques et économiques de l'Amérique. En réalité, nous devenons les colonies de sa vie, de son mode de vie, les esclaves d'une idée qui nous est à nous, Européens, mais profondément étrangère. La mécanisation de l'existence. Ah, on est en plein dedans, il faut dire. Il était un homme de vision.
Ah oui, oui.
Mais cet asservissement économique me semble encore peu de choses en comparaison du danger qu'encourt l'esprit. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé avec ces citations. Ah oui, il y avait encore un petit De Gaulle parce qu'il a deux lignes. Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir? Voilà, c'est tout. Écoutez, alors, ce livre, il est passionnant. Ce livre, notre faux ami, l'Amérique, de Marc Rousset, et notre faux ami l'Amérique, il ajoute « Pour une alliance avec la Russie », c'est sa thèse, etc. C'est passionnant, bien que ce ne soit pas un roman, mais les choses de ce genre peuvent être aussi passionnantes, parce qu'elles nous concernent directement, concernent notre passé, concernent notre compréhension de l'histoire, et concernent notre présent. Et bien qu'il soit bourré, mais il y a tous les chiffres qu'il faut, et des chiffres vérifiés, des chiffres qui sont évidents, comparés, des faits historiques dûment vérifiés, vous trouvez tout ça là-dedans. Le livre est passionnant, je le répète, parce que l'auteur est passionné par son sujet, et que le rapprochement avec la Russie et la fin de la dépendance mortelle, dit-on, des États-Unis, c'est le pouvoir... C'est quelque chose qu'il dit avec une sorte de modération, en ayant le souci de ne pas être considéré comme quelqu'un qui exagère.
Oui. Ni un homme de Poutine inconditionnel, je tiens à le dire. Alors, et d'ailleurs, lorsque je suis intervenu à l'Académie des sciences de Russie, les Russes eux-mêmes ont pris la précaution, avant même que j'intervienne, de dire « Mais attention, chers amis, Marc Rousset, c'est pas du tout un homme qui... C'est un patriote français, les Russes...
Oui. »
Et j'avais M. Alexei Gromyko, qui était le président à côté de moi. Donc les Russes m'ont bien perçu comme un Français patriote qui défendait le rapprochement à la Russie, mais qui parlait au nom de la France.
Au nom de la France et pour la France. Et
pour la France,
l'intérêt
oui.
européen, voilà. européen, alors de l'Europe dans l'ensemble, oui. d'ailleurs, pour qu'elle continue
oui,
d'exister.
Bien sûr,
en
c'est
fait.
Ça.
Et puis, etc.
Alors, c'est pas pour au service de la Russie, c'est, rien à voir.
Alors donc, d'abord, ben précisément, touchons l'Amérique tout de suite. Ce que vous pensez de l'attitude de l'Amérique, de son attitude à l'égard de ses moyens de puissance, de son hégémonie ou de sa volonté de puissance, et comment traiter cela. Et ensuite, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'Europe et nous?
Je voudrais commencer, cher Président, si
Comment
vous voulez bien,
ce que vous
par
voulez.
Une petite remarque pour, avant d'aborder le problème de fond. Ensuite, on cantonnera sur tous les problèmes évidemment, linguistiques ou tout ce que vous voulez aborder. Mais je voulais quand même faire trois remarques préliminaires, sans prétention aucune, sur mon ouvrage, même si je mets la barre très très haut, chers amis. Tout d'abord, je considère que mon livre est un livre, je pèse mes mots, aussi important que le choc des civilisations de Samuel Huntington.
De Huntington, vous avez entendu parler, vous avez lu
livre
Huntington
qui a
à son
le choc
époque.
Des civilisations, qui a eu un.
Il était à la mode.
Qui a été. Qui a eu un. Qui a été vraiment très connu dans le monde. Je dis bien, pour un Européen, ce livre, pour moi, aujourd'hui, je pense, représente d'une importance comparable.
Oui.
La deuxième idée.
Mais
c'est que justement, je me permets de... je pense que ça n'a pas été fait véritablement jusqu'à présent par les auteurs géopoliticiens, que je suis peut-être, j'espère, ou peut-être que d'autres, auquel cas je ne suis pas au courant, c'est que je m'oppose à la thèse de Samuel Huntington dans son livre, qui a présenté la Russie comme un pays déchiré. Et les 450 pages de la version augmentée de mon ouvrage, ce que j'ai dit en Russie d'ailleurs, où j'ai été applaudi, c'est justement, en un mot, c'est que la Russie n'est absolument pas présentée comme un pays déchiré. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais en un mot, chers amis, c'est tout simplement un pays de civilisation européenne dans un espace géographique euro-asiatique. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le pays est de civilisation européenne, et c'est un des fondamentaux de mon livre, parce que c'est une des bases même de l'intérêt de mon ouvrage. Je ne vais pas me lancer dans des explications, sinon on est hors sujet, mais attirer votre attention. Et en un mot, de dire qu'en Asie, l'Européen, c'est le Russe. Troisième idée, et j'en resterai là, puisque le mois est haïssable, comme disait Pascal, c'est les quelques dernières lignes de mon ouvrage qui sont la conclusion importante et qui n'a pas été faite jusqu'à présent dans le monde, je pense, c'est de défendre l'idée suivante. C'est que non seulement je suis pour le rapprochement avec la Russie, comme vient de nous dire le président Albert Salon, mais c'est que je défends l'idée suivante, c'est qui est beaucoup plus loin, c'est que pour moi, pour la survie de la civilisation européenne, et même à la long terme, la survie de la France et de la Russie, je vais très très loin, je suis en avance sur l'horaire, je m'en excuse, je pense, et je suis même absolument persuadé, qu'il n'y a pas d'alternative à l'alliance entre l'Europe et la Russie. Donc je vais beaucoup plus loin. Et je dis bien, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails, dans l'intérêt et de la France et de l'Europe, et de la Russie aussi, qui est un pays très menacé, contrairement à ce que les gens pensent. Et j'ajoute comme corollaire à cette affirmation que démontrent les 450 pages de mon ouvrage, c'est que toute alliance de l'Europe ou de la Russie avec la Chine ou les États-Unis, ce qui est le cas actuellement, puisqu'on peut dire que l'Europe est alliée avec les États-Unis et la Russie, à cause de la bêtise des Européens, est alliée avec la Chine, ne peut être qu'une alliance défensive à court terme, et c'est ce que j'ai dit aux Russes d'ailleurs, et en aucun cas une alliance d'avenir civilisationnelle avec des perspectives d'avenir à long terme. Voilà. Et ça, c'est quand même, c'est une idée très importante, c'est la conclusion de mon ouvrage. Et je pense que, je pense être, aujourd'hui, c'est comme tel que j'étais considéré par les académiciens russes, un homme qui, au nom de la France, au nom de la civilisation européenne, venait de l'Europe de l'Ouest pour présenter cette idée et cette thèse aux Russes, qui, je peux le dire, n'ont pas été choqués et m'ont au contraire applaudi. Alors voilà, c'était une simple remarque géopolitique que je tenais faire. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais répondre aux questions du président. La première question que vous m'aviez posée, président, c'était de me dire, avant même de reporter le sujet beaucoup plus sur la Russie, puisque c'est le thème même de mon livre, mais vous m'avez posé comme première question, je vais y répondre très rapidement. Comment est-ce que les francophones, et là on rentre dans le problème linguistique, et uniquement linguistique, comment est-ce que la France même traite le problème de la défense de leur langue, et comment réagissent les anglophones, c'est-à-dire essentiellement l'Angleterre et les États-Unis. Alors, ma remarque pragmatique, puisque j'étais coopérant au Québec, j'ai connu ça de très près pendant 16 mois, étant à l'époque
le
général de Gaulle, au pire moment où des gens ont été assassinés à Montréal, je tiens à le dire, j'ai vécu tous ces moments-là, c'est l'idée suivante que je défends. C'est que les anglophones et les anglo-saxons ne parlent pas systématiquement, même très peu, du problème linguistique dans les mots. Mais parfois, et j'ai des citations, je vais faire comme le président que j'ai reprises, qui me paraissent fondamentales et où je réponds à la question du président, font des affirmations très graves et très importantes que je vais vous citer à 4 reprises. Et les anglophones, les francophones, eux, ils en parlent très souvent, mais n'agissent pas, si vous voulez, d'une façon continuelle comme le font les anglo-saxons. C'est-à-dire que, par certains moments, notre langue a été très bien défendue, je pense du temps de Pompidou, du temps de Chirac aussi, où les choses sont bien passées. Mais ensuite, on a des gens, alors on a des associations qui militent, mais on a des gens qui ne défendent pas, et puis on a un démolisseur qui arrive, comme Macron, qui a eu le toupet d'institutionnaliser l'anglo-américain dans l'Union européenne, ce qui est absolument un scandale et une trahison de la langue française. Donc c'est ça ma première remarque, et j'ai un petit exemple à vous donner, c'est que le président actuel Trump, par exemple, tout récemment, pour moi c'est un fait divers, mais ça montre qu'il pense toujours aux problèmes linguistiques, il avait fait une remarque assez méchante, assez agressive même, sur les Québécois qui avaient passé une langue pour défendre la langue française à Montréal, et monsieur le président Trump en était choqué, comment est-ce qu'on peut en arriver à des choses pareilles? C'est-à-dire, ça montre bien que les anglo-saxons ont toujours l'idée de dominer le monde avec leur langue, et ça, ils l'ont dit et écrit, et je vais vous les citer par ailleurs.
Et je fais juste une parenthèse,
voilà,
si vous permettez. Attendez, c'est une parenthèse. C'est une très courte parenthèse que je fais, si vous me le permettez. En 1943, Churchill lançait cette idée de s'appuyer vigoureusement, encore plus vigoureusement qu'avant, sur la langue pour un soir, l'Empire anglo-saxon.
J'ai la citation, président.
Eh bien, alors voilà. Continuez, je vous en prie. Excusez-moi de vous avoir interrompu.
On est bien fait pour s'entendre, puisque dans les 4 citations anglo-saxonnes, je commence par celle de Winston Churchill. Alors, je vous donne la référence exacte. C'est le 6 septembre 1943 à Harvard, pour parler en français. Winston Churchill appela les États-Unis d'Amérique à faire du Basic English, je cite, une langue d'influence mondiale. Mieux à même qu'un empire politique et militaire, je cite, pour promouvoir leurs intérêts. Deuxième citation. Donc là, je confirme ce que vient de dire le président Albert Salon. Deuxième citation, très importante également, c'est celle de M. David Rotkopf, directeur général de Kissinger Associates, pour parler en français. Il disait: il y va de l'intérêt économique et politique des États-Unis de veiller à ce que, si le monde adapte une langue commune, ce soit l'anglais. Troisième citation, Madame Margaret Thatcher, lors d'une conférence aux États-Unis, Je peux citer la référence, c'était à Stanford, le 31 juillet 2000, Madame Margaret Thatcher qui dit lors d'une conférence aux États-Unis qu'il s'en prend violemment à ceux qui s'opposent à cette évidence. Je cite, « Au XXIe siècle, le pouvoir dominant est l'Amérique, la langue dominante est l'anglais, le modèle économique est le capitalisme anglo-saxon, d'où une puissance unique, une langue unique, une idéologie unique, un système unique. » Voilà ce que Madame Margaret Thatcher a pu dire
à l'université de Stanford.
Et quatrième citation qui elle remonte en 61, lors d'une conférence très importante qui a eu lieu à Cambridge, Angleterre, bien évidemment, non pas Cambridge aux États-Unis. Elle était la suivante. Selon les conclusions de cette conférence en 1961 à Cambridge, l'anglais doit devenir la langue dominante. La langue maternelle sera étudiée chronologiquement la première, mais ensuite l'anglais, par la vertu de son usage et de ses fonctions, deviendra la langue primordiale. Voilà, si vous voulez, le rêve anglo-saxon qui ont connu, évidemment, les affres du temps où le français était la langue universelle et où les, je me rappelle, du temps de, je ne sais plus quelle époque historique, le pauvre ambassadeur anglais en Allemagne faisait tout pour dire « quand même, n'oubliez pas, parfois, de parler un peu l'anglais ». Voilà où nous en sommes venus, mais malheureusement, le monde a évolué. Et en antidote, je voulais vous citer deux citations de ce très grand président qui a été Pompidou, qui, comme le général de Gaulle, a, lui, vraiment eu des sentiments prémonitoires et a vraiment défendu la langue française.
Tout à fait.
Et lorsqu'il, oui. Lorsqu'il a introduit le diable, ce qu'on peut lui reprocher sur le plan géopolitique, à mon avis, parce qu'il a voulu faire entrer l'Angleterre, soi-disant, pour aider la France à s'opposer à la domination allemande.
C'était en 73.
Il dit quand même, sur le plan prémonitoire, il avait senti venir le vent. Voilà ce qu'il a pu dire dans une déclaration au journal Le Soir du 19 avril 1971. Il y a 50 ans, un demi-siècle. Il a dit la chose suivante. Si demain l'Angleterre est entrée dans le marché commun, il arrivait que le français ne reste pas ce qu'il est actuellement, la première langue de travail de l'Europe, alors l'Europe ne sera jamais tout à fait européenne. Et c'est là où il a dit cette chose fondamentale qu'il ne faut jamais oublier, car l'anglais est avant tout, pour le monde entier, la langue de l'Amérique. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. C'est pour ça que cette langue... Et la deuxième affirmation, et j'en termine là, président, c'est la suivante. Cette citation qu'il a faite, celle-là, aussi en 71. « Si nous reculons sur notre langue, nous serons emportés purement et simplement. » D'où l'importance de la langue. C'est pas une floriture, la langue. C'est fondamental. Si nous reculons sur notre langue, nous serons portés purement et simplement. C'est à travers notre langue que nous existons dans le monde, en parlant de la France bien évidemment, autrement que comme un pays parmi les autres. Déclaration en 1971 de Georges Pompidou. Voilà, j'en ai terminé, président, pour ces quelques citations que je voulais faire. Et maintenant, si vous voulez bien, parlons uniquement et seulement de notre chère et belle langue française.
Je souhaite que vous nous décriviez un peu plus à nos auditeurs, parce que vous avez étudié ça de près, comment travaille, mais là cette fois on peut faire en succession, comment travaille pour appliquer ce que Churchill et tous les autres que vous venez de citer disent en ce qui concerne l'hégémonie et par pratique effective de l'anglais dans le monde.
Voilà.
Bon. Et puis ensuite, vous me direz aussi ce qui se passe du côté russe, pour le russe.
Bien. Alors,
et il y a des grandes différences.
Voilà. Alors, comme je dis, le moins, et ça, mais j'ai déjà eu des conversations déjà. Je prétends que malheureusement, si on n'engage qu'un combat purement linguistique, cette bataille risque d'être perdue si on en... Et que les fondements même du succès du combat de la langue française passe par un soubassement géopolitique. Ça fait partie d'une de mes idées fondamentales que je mets en pratique. Et je pense que si justement l'Europe ne se rapproche pas de la Russie, ce sera très difficile pour nous, le mal étant fait, ayant perdu la première bataille alors qu'on était implanté, nous nous sommes fait quand même malheureusement évacuer par les Allemands, par tous les ennemis de la langue française, c'est encore plus difficile de revenir à partir du moment où nous y étions et de pouvoir imposer la langue si l'Union européenne perdure. En tout cas, si c'est pour imposer l'anglais, il vaut mieux qu'elle éclate, cette Union européenne. Et si on avait la chance d'avoir une confédération, certainement qu'à ce moment-là, la langue française, on effacerait tout et on recommencerait, on pourrait peut-être mieux la... On pourrait mieux la défendre. Donc l'idée, c'est que je pense que si nous réussissons à nous rapprocher géopolitiquement de la Russie, la chance de donner sa chance aux Français pour que ce devienne la langue de l'Europe est beaucoup plus grande. Et j'ai pas entendu dire, j'ai posé le problème d'emblée à l'Université d'État linguistique de Moscou. Donc voyez-vous, chers amis, j'étais bien placé et j'avais des interlocuteurs de poids où là je suis rentré dans le détail, je suis allé jusqu'à fond de ma pensée devant la salle était pleine, il y avait le recteur, il y avait tous les doyens d'université, plusieurs centaines de personnes et toutes ces personnes importantes. Et j'ai dit noir sur blanc aux Russes la chose suivante, c'est que, et j'en suis intimement persuadé, mais je passais le message aux Russes en leur disant la chose suivante. Si, parce que moi je ne parle jamais d'anglais, je parle toujours de l'anglo-américain. C'est ça qui est fondamental, il ne faut plus parler de l'anglais, il faut parler de l'anglo-américain. Si, nuance qu'avait très bien compris...
C'est ce que je fais tout le temps, moi.
C'est ça qu'il faut faire. Parce que si le français a été vaincu momentanément à Bruxelles, c'est l'anglo-américain suite aussi à l'action de l'Amérique. Il faut pas se faire d'illusions, n'est-ce pas? Nous avons perdu la langue, la bataille contre l'anglo-américain et non pas contre l'anglais. Voilà. Donc, c'est l'idée suivante. C'est qu'il n'y aura jamais d'Europe si la langue de communication de l'Europe est l'anglo-américain. Pourquoi ? Parce que l'anglo-américain, c'est la langue de l'Empire américain. Donc, par définition, si nous parlons tous la langue de l'Empire américain, comment voulez-vous, chers amis, qu'on puisse, qu'on le veuille ou non, garder notre âme européenne, notre culture européenne, et le multilinguisme et la langue française ? Dès le départ, c'est le pouvoir, le terme français du pouvoir de l'influence, hein, la fameuse soft power anglo-américaine. En français, je crois que c'est le pouvoir d'influence.
Le pouvoir d'influence, c'est comme ça qu'on le traduit d'habitude.
Il passe, et c'est ce que j'ai dit aux Russes. Et c'est le message que je leur ai dit. Je leur ai dit, chers amis, je cite, je suis allé très loin, je ne me suis pas dégonflé, je leur ai dit, puisque je me suis permis de leur dire la chose suivante, ça va peut-être vous faire sourire, mais je leur ai dit, écoutez, c'est très bien, chers amis, que vous vous attaquiez au dollar américain, mais vous feriez peut-être bien aussi de vous attaquer à l'anglo-américain d'une façon beaucoup plus frontale, voyez-vous. Donc j'ai posé le problème en disant que c'était bien de s'attaquer au dollar, mais il fallait aussi s'attaquer à l'anglo-américain. Et quand même, sachez que j'ai terminé mon intervention en étant applaudi à plusieurs fois et en étant respecté, et je dis avec humilité, il manquait plus que à peu près le titre docteur honoris causa lorsque j'ai quitté cette très connue université d'état linguistique de Moscou, qui est très célèbre, au même titre que le MGIMO, qui est l'équivalent en sciences politiques, où j'étais aussi très très bien reçu et applaudi par les étudiants. Donc voilà ces remarques préliminaires que je voulais faire. Donc, Pour gagner cette langue, il faut absolument d'abord se battre, nous, il faut faire comme fait le président, il s'agit de perdre le moins de terrain possible. Actuellement, il y a des associations comme Avenir la langue française qui se battent pour commençons par perdre le moins de terrain possible, même si le président Macron nous a fait perdre la bataille.
Ça, ouais. nous l'avons dit maintes fois.
Il faudra se battre
pour cette antenne de Radio Courtoisie.
Que les institutions nouvelles françaises aide à ce combat pour la langue française dans le monde.
C'est bien entendu, mais vous, avec la connaissance que vous avez de la Russie, je vais vous poser la question suivante. Quelle est la politique linguistique de la Russie dans l'ancien empire soviétique et dans la Russie actuelle, et puis dans sa relation avec les territoires comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan, etc. Vous décrivez très bien ça dans votre bouquin. Oui. Parlez-en à nos auditeurs parce que c'est fort intéressant pour eux. Comment travaillent les Russes pour développer leur langue, non seulement en Russie même, mais surtout dans les territoires voisins qui furent anciens territoires de l'Union soviétique.
Oui. Alors, il faut savoir que...
Parce que ça peut être un modèle pour nous.
Les Russes se sont inspirés. Ça, c'est... je ne sais plus quel... c'est un ancien ambassadeur de Russie en France, je crois que c'est comme... Ils sont inspirés de l'action des Français, de la France, cette action...
culturelle internationale.
De la francophonie, pour... l'idée a été reprise par les Russes, je ne sais plus à quelle époque, mais il faut savoir qu'ils en ont été conscients, et qu'ils font tout, ils veillent à ce que le russe soit vraiment employé d'une façon...
Et ils le font comment au Kazakhstan, par exemple. L'énorme Kazakhstan.
Oui, au Kazakhstan, les choses se passent naturellement. Alors, je peux vous dire, c'est que ils interviennent, ils font savoir qu'ils sont... je vous donne l'exemple, on va prendre l'exemple de deux pays les plus importants, par exemple. Il faut savoir d'abord que, première idée, c'est que tout le monde parle russe. Le russe est parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Kazakhstan, chers amis, les gens parlent plus le russe. Vous avez même des Kazakhs qui ne connaissent pas leur langue kazakh et qui parlent le russe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le russe est vraiment parlé... c'est la langue qui prime au Kazakhstan. Et c'est pas une langue... une seconde langue... voilà. Et il y a une idée, une tentative au Kazakhstan qui a été faite d'introduire l'alphabet latin. C'est reporté au calendrier grec d'ici un demi-siècle. La seule application qui a été faite, c'est qu'au... lors du défilé des Jeux Olympiques... À Pékin, je crois, pour la première fois dans le monde, on voyait le mot Kazakhstan qui était en caractère latin sur le tricot des athlètes anglais. Mais il faut savoir qu'en pratique...
Des athlètes kazakhs ou des athlètes lesquels ?
Sur les athlètes kazakhs qui avaient...
Parce que vous dites anglais.
Où le mot Kazakhstan était inscrit pour la première fois. Mais les Kazakhstan renoncent parce que les générations... c'est le cyrillique qui a été introduit par Staline en 1926, si j'ai bonne mémoire. Et donc, qui fait que le passage à l'alphabet latin, une fois que vous êtes dans le cyrillique, moi-même je suis témoin, je ne parle pas le russe malheureusement, mais je connais l'alphabet cyrillique. Si vous êtes en Russie, vous avez intérêt quand même à déchiffrer le cyrillique, sinon vous êtes vraiment perdu, chose que je fais. C'est une barrière qui défend en même temps la langue russe d'une façon
c'est évident.
Il faut savoir qu'en Ouzbékistan, il y a eu une tentative de revenir aux sources d'origine du pays, qui est de langue de religion musulmane, comme chacun sait, et qui, avant l'introduction de la langue russe par Staline aussi dans les années 1926, donc avait comme langue, c'était une langue avec des caractères arabes. Alors je ne sais pas si c'était la langue arabe, je ne crois pas que c'était la langue littéraire, parce qu'il y a une influence turque très forte en Ouzbékistan. Oui. Mais c'était des caractères comme actuellement en Algérie avec les caractères arabes, n'est-ce pas? Et ils ont tenté de vouloir réintroduire aussi l'alphabet arabe. Alors là, c'était la catastrophe totale, parce qu'on ne trouvait même plus personne qui était capable d'utiliser l'arabe pour faire le travail.
Je vous interromps avant que nous...
Voilà,
que je vous...
donc il faut savoir,
attendez,
tout le monde
nous sommes obligés de laisser passer le Bobino maintenant.
Oui.
Le Bobino, vous pouvez y aller, Claudia, dans le Bobino. Et puis ensuite, vous poserez la question notamment de ce qui se passe ailleurs dans le Kirghizistan et puis l'Ouzbékistan, par exemple, en ce qui concerne le russe. Allez-y.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Allons-y.
Alors. Voilà. Alors donc aujourd'hui, le russe est très parlé par donc en résumé au Kazakhstan, qui est le plus grand pays en dimension. Hein, c'est à peu près l'Europe. Ce pays, il faut savoir, il est immense. L'Ouzbékistan, qui sont le deuxième plus grand pays.
Ça n'a pas l'air comme ça sur la carte, mais c'est plusieurs fois la France.
L'Ouzbékistan, oui.
Je parle du Kazakhstan.
Le Kazakhstan, ça se rapproche de l'Europe. Hein, j'ai pas les chiffres, mais c'est un pays immense. Hein, c'est l'Europe. Hein. L'Ouzbékistan aussi est un pays assez étendu. Et plus peuplé que le Kazakhstan, il a plus de 30 millions d'habitants. Et puis vous avez les plus petits pays qui sont le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, voilà. Alors là aussi, le russe est très très parlé. Alors que la culture originale d'origine de ces gens-là, un jour peut-être qu'il y aura des retours
de
à long terme, hein, parce que on va pas contre la culture profonde d'un pays. Mais actuellement, le russe est très parlé dans l'administration. Moi-même, mon éditeur, je me rappelle Vesmir, qui est mon éditeur russe, qui était l'éditeur de Gorbatchev, et il me montrait un livre. C'était un des plus grands hommes d'État du Kirghizistan, justement, à l'époque, qui était en train d'éditer un livre en langue russe à Moscou, voyez-vous, pour être connu et vu. La langue kirghize, voilà. Elle est parlée par une minorité, mais la langue prédominante, très utilisée, c'est le russe. Au Tadjikistan, je pense que c'est la même chose, avec une culture très marquée, par contre, du monde musulman dans ce pays. Hein, mais le russe est toujours... vous pouvez aller aujourd'hui dans tous ces pays, c'est la langue russe est parlée. Alors, il y a une chose... Il y a une tentative aussi du monde anglo-saxon, puis vous avez la force commerciale, et ils en sont conscients, parce que moi je parle un langage de vérité, mais il est vrai que sur le plan commercial, vous avez une petite ouverture. Non pas dans les rues, hein, où là c'est toujours le russe et que le russe et rien que le russe, mais l'élite en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Certaines personnes commencent à parler un peu l'anglo-américain pour des questions comme deuxième langue, comme ouverture au monde sur le plan commercial. Et puis, bon, il y a quand même toujours cette idée de s'opposer, disons, à la puissance dominante qui est le frère russe que l'on peut comprendre. Ouais. Mais en résumé, c'est que tout le monde parle russe et que si la Russie remporte une victoire en Ukraine, la langue russe sera implantée définitivement et sans discussion possible dans ces pays.
Donc, le russe est maître chez lui en Russie, sans problème.
Oui.
Le russe est encore, est ce que vous venez de dire, dans les pays qui ne sont pas russes, mais qui sont de l'ancienne Union soviétique et qui étaient les plus importants de l'ancienne Union soviétique.
Géorgie,
et alors, quelle est à l'heure actuelle la politique culturelle russe de développement du russe dans le reste du monde, et en Europe particulièrement? En Europe,
alors,
normal.
Vous avez, sur le plan pratique, il y a un désir de...
On n'entend pas beaucoup de
parler. Vous savez, vous avez le fameux Russia Today, que j'ai rencontré, où j'étais reçu sur les radios. Dans l'Afrique francophone, ils font un très grand... beaucoup de travail pour développer la langue française par le biais de la Russie, parce que lorsqu'ils diffusent en Afrique, bon, ils font une distinction très nette entre l'Afrique francophone et le Russia Today, évidemment, que j'ai rencontré à Moscou, c'est des gens, d'ailleurs, sont des purs francophones, ils contribuent à développer la... qu'on apprenne un peu le russe
progressivement.
Mais pratiquement, ils développent la francophonie parce que la langue de travail qu'ils utilisent, c'est le français.
Oui, sais bien, c'est bien
donc,
connu.
Donc, ils jouent... alors, sur le plan politique, évidemment, comme ils prennent des coups de la France, il faut les comprendre. Moi, j'en veux pas trop pour russes. Hein, avec les gens actuels qui leur font la guerre en Europe et tout, il est normal qu'ils essayent de nous attaquer dans dans notre territoire francophone. Enfin, je dis ça d'une façon objective. En tant que Français, ça me navre, mais je me mets un petit peu à leur place.
Mais
pratiquement sur le plan culturel, la Russie essaye en Afrique que les gens parlent un petit peu plus le russe, d'inviter des gens à faire leurs études en Russie, en langue russe, mais contribue de facto à développer la langue française en Afrique francophone.
Est-ce qu'ils ont une politique de développement des bourses comme l'avait l'Union soviétique ? En Afrique.
Il y
a beaucoup d'Africains qui ont été formés au temps de l'Union soviétique, en Russie, et avec naturellement la langue russe.
Écoutez, je vais vous donner un fait.
Mais alors maintenant, quelle est la situation ? Est-ce que les Russes actuels ont cette même politique ? Est-ce qu'ils en ont les moyens ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, il y a une politique. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se faire former sur le plan technique, sur le plan... vous savez qu'il y a deux fois plus... il y a autant d'ingénieurs en Russie avec une population moindre. Il y en a même plus en Russie qu'en Amérique. Et moi, je vais vous donner un fait...
Mais moins qu'en Chine.
Non, mais j'étais un dimanche matin à l'office, à l'église Saint-Louis, qui est l'église francophone à Moscou. Et ce qui m'a étonné, mais alors c'était ahurissant, c'est que vous aviez là-dedans, je vous donne un fait, ça c'est pas une... Il y avait à peu près 80%, oui, au moins, hein, des fidèles qui étaient de race noire. C'est-à-dire, or ces personnes à qui j'ai discuté à la sortie de la messe étaient des étudiants qui venaient de passage faire leurs études en Russie. Je peux vous donner cet exemple où le...
Mais vous n'avez pas de chiffres sur le nombre d'étudiants étrangers boursiers de la Russie venant d'Afrique, etc.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire leurs études.
Ouais,
voilà. Mais je n'ai pas des chiffres précis sur la politique culturelle de la Russie dans le monde, mais elle est très pragmatique et très tournée pour former. Essentiellement, souvent pour des formations techniques et sur le plan militaire aussi. Ils sont invités à Moscou. Voilà. Au MGIMO où j'ai été, il y a quelques étudiants d'Afrique, mais j'en ai pas vu beaucoup. Voilà.
Bon, alors maintenant, parce que nous approchons de la fin. S'il y avait la grande Europe avec la Russie, selon vos vœux et selon l'utilité que ça présente, comme vous le faites très bien, quelle serait la langue de cette grande Europe, à votre avis ?
Alors,
sans doute pas le russe, mais l'essentiel, c'est que ce ne soit pas l'anglais.
Oui.
Mais si ce n'est pas le français, qu'est-ce que ce serait ?
Voilà. Alors, j'ai posé le problème, mais je peux parler sur le plan personnel. Je dis bien, même si la Russie devient demain, pour ça qu'il faudrait que, il s'agit d'être ami avec la Russie, il s'agirait que nous, les pays plus petits à l'ouest de l'Europe, on sache aussi défendre notre pays, mais savoir aussi faire quelques projets ensemble, pour mieux faire attention aux États grecs face à l'Empire romain. Bien.
Ça va de soi.
Ça ne peut pas être le russe, je pense, parce que à cause du cyrillique et de l'alphabet latin. Et moi-même, je parle avec l'espéranto que je déchiffre, mais que je parle pas. Je suis en train d'apprendre le russe en ce moment. C'est une langue très difficile à apprendre. Enfin, pour moi, c'est la langue la plus difficile de toutes les langues que j'ai à apprendre. C'est plus difficile que l'allemand, j'estime. Et puis vous avez le cyrillique qui, pour moi, est une barrière à l'apprentissage, parce que vous ne pouvez pas utiliser le moyen mémotechnique pour vous rappeler d'un mot. Et pour moi, ça me paralyse complètement dans l'apprentissage de la langue, c'est l'alphabet cyrillique. Voilà. Donc, moi, je pose la question qui serait la suivante, j'en ai déjà parlé avec le président, ce serait l'idée suivante. Nous, Français, ce serait notre devoir de dire, de tout faire, d'abord pour retrouver la fierté de notre pays, de trouver un minimum de pure en puissance, et de défendre notre langue toutes les façons possibles. Et de poser la question du français, langue de l'Europe, qui serait justifié, ne serait-ce que pour des raisons historiques, et parce que je pense que c'est la plus belle langue, c'est la langue qui c'est la seule langue de l'Europe mériterait d'être véritablement, avec un rayonnement suffisant, compte tenu de ce qu'elle a été, la langue de l'Europe. Et de poser la question suivante. Aux autres, si le problème devait se poser avec des gens dignes de confiance et qui aient une volonté d'être des hommes d'État et non plus des politiques de bas étage. C'est d'être très ferme et de dire que, de poser la question de la langue en de dire attention, nous demandons à ce que soit le français, parce que nous voulons nous rapprocher de la Russie et de mettre des choses cartes sur table. Nous voulons que l'Europe reste européenne. Nous sommes convaincus que si l'anglo-américain devient la langue de l'Europe, il n'y aura jamais d'Europe. Ce sera un terme des Nouvelles-Louisianes. Il y aura donc disparition même de toutes les langues européennes. La seule façon de défendre le multilinguisme, la survie des langues européennes, c'est, sur le plan politique, géopolitique, nous rapprocher de la Russie et qu'il y ait une autre langue que l'anglo-américain. Ça, c'est le postulat de base. Alors, nous proposons que ce soit le français. Les choses sont très claires, ce ne sera jamais, sinon nous nous retirons purement et simplement de l'Europe, et nous, à ce moment-là, nous parlerons toujours français, nous rapprocherons de la Russie, puis vous débrouillerez, mais ce sera sans nous, ou si vous voulez la continuité, nous continuerons à vous écrire en français et qu'en français. Voilà. Eh bien, nous proposons, comme seule possibilité ultime, et j'ai abordé le problème à Moscou, c'est de dire que, comme on appelle la deuxième alternative, hein, le mot anglo-saxon second best, deuxième alternative en bon français, à ce moment-là, ça ne peut être que l'espéranto et que l'espéranto. Et c'est l'espéranto ou rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est une langue, alors là je suis témoin, et je parle d'une façon objective, qui est cette fois plus facile à apprendre que l'anglo-américain. C'est-à-dire que vous battez l'anglo-américain à son propre jeu.
Heureusement, voilà. Parce que
l'anglo-américain est d'ailleurs très difficile à apprendre. Une langue sensible, qui n'est pas une langue impérialiste, il faut que ce soit, ce sera l'espéranto ou rien du tout, puisque vous ne voulez pas du français. Et il faut, chers amis, j'ai défendu cette idée à Moscou, et je peux vous dire que le recteur est intervenu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'il est intervenu pour prendre la parole suite à, après mon intervention, il a bien retenu ma pensée sur le français et sur l'espéranto, et en ce qui concerne l'espéranto, c'était le recteur en personne qui parlait, il a dit « Et nous, à Moscou, nous avons un département d'espéranto, je crois qu'il y a 42 étudiants, et nous faisons tout pour développer ce département. » C'est-à-dire que l'idée, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai dit à l'époque pour défendre le français, mais donc ça montre que mon idée, que nous ne pouvions pas parler, que l'anglo-américain ne peut pas être, par définition, la langue de l'Europe. C'est ça la chose fondamentale, n'est-ce pas ? Et de dire, alors, vous voulez dire, et que lors du vote des langues, que les gens, avant le vote, soient conscients de l'enjeu, de ne pas attendre de dire, ah ben on va décider que c'est l'anglo-américain, puis après de dire, ah ben non, ça ne peut pas être l'anglo-américain. De poser l'enjeu dès le départ, d'une façon responsable, du problème linguistique, Et là, je suis persuadé, parce qu'il faut savoir qu'en français, qu'en Russie, le français est quand même toujours très parlé, toujours très considéré, et qu'il y a des très beaux restes, si je peux dire, du temps où il était, vous savez, c'était la langue unique de communication de l'aristocratie en Russie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire
très
rapidement.
Et la langue d'écriture d'un certain nombre de grands écrivains russes.
Ah oui, vous savez, quand 1800 et des poussières, les gens, alors ça c'est un peu morbide ce que je vais vous dire, mais ils ont été pendus, les aristocrates qui avaient fait une petite révolution, ils ont été pendus, les malheureux, en français à Saint-Pétersbourg, en français, vous imaginez. C'était pour la petite histoire.
C'est peut-être pas très glorieux
pour notre langue, mais c'est pour dire à quel point la langue était rentrée
Il y a longtemps, mais il y a de beaux restes. Est-ce que vous êtes allé à Moscou, vous êtes allé,
oui,
je suppose, discuter avec l'ambassadeur de France, à l'ambassade de France, et qu'est-ce qu'il vous a dit sur tout ça?
Alors,
ambassadeur là-bas.
Oui, je veux dire que je ne suis pas allé actuellement pour des raisons politiques. Je ne suis pas allé à l'ambassade de France.
Et vous n'avez pas rencontré de l'ambassade à l'extérieur de l'ambassade qui vous ont parlé.
Mais je ne suis pas allé à l'ambassade en tant que tel.
Mais nos diplomates là-bas que vous avez pu voir en dehors de l'ambassade, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Moi, j'ai rencontré les gens de la chambre de commerce.
Les gens de l'action culturelle. Le conseiller culturel français, vous ne l'avez pas vu?
J'ai pas été reçu par ces.
Non, mais pas forcément reçu. Vous auriez pu le croiser dans une.
Oui. Mais je n'ai pas eu de contact à l'époque. J'étais excessivement occupé.
L'ambassade aurait pu envoyer des gens vous écouter.
Je peux vous dire que ces gens-là, il y avait aussi une implantation économique très très forte de la France qui malheureusement a été des destructions à 60
perdu, à 70%. On a perdu énormément.
Mais bien
là.
Sûr, Renault avait 30%, c'est un suicide monstrueux.
Absolument.
Voilà. Mais il y a quand même un très grand respect, et les Russes, je pense, seraient notre allié pour, justement, que le français, ils accepteraient que le français devienne la langue de l'Europe sans problème. Ça les dérangerait pas. Voilà.
Bien, bah écoutez... Est-ce que vous avez une conclusion générale à faire? Nous avons 2 minutes.
Eh bien oui, c'est toujours, je reviens sur ce thème fondamental, c'est que l'anglo-américain, c'est la langue de l'Empire américain, et que cette langue ne peut être en aucun cas la langue de l'Europe. Et ça fait partie du combat géopolitique, hein, comme vous savez, puisqu'on parle de tout mon livre, j'ai fait un livre à 35 chapitres, qui est un livre de géopolitique, où sont abordés les problèmes militaires, vous avez la force militaire et puis vous avez la force d'influence. Et les Américains, actuellement, Trump revient avec la force militaire, hein, il fait un impérialisme militaire et affiché. Avant, les Américains, les démocrates pratiquaient un impérialisme qui était un impérialisme culturel avec le pouvoir d'influence. Et il faut bien savoir que ce combat passe par le combat pour défendre notre langue. Et je pense que c'est le soubassement qui, si demain nous parlons l'américain comme il est en passe de le devenir, il faut voir ce qui se passe en Europe, malgré tous les efforts que l'on fait, eh bien, on peut faire tout ce que l'on veut, mais on risque de perdre le combat géopolitique. Comme dit le proverbe chinois,
il faut se battre.
Le poisson pourrit par la tête.
Oui. C'est ce qu'il faut éviter en ce qui nous concerne, en tout cas. Voilà. Eh bien, merci à Marc Rousset.
Merci, Président, pour votre invitation.
Oui, mais merci à vous de tout ce que vous avez dit à nos auditeurs, là, que vous avez appris, certainement pour une large part, beaucoup de choses. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Claudia qui a fait cette émission. Et puis, à bientôt.
Peut-être une dernière prochain. Chose, le, si c'est, j'ai eu le temps, le titre de mon ouvrage, c'est la, Notre faux ami
notre
l'Amérique.
Notre faux ami l'Amérique.
Pour une alliance avec la Russie, préfacé par Piotr Tolstoï. Notre ouais. faux ami l'Amérique, pour une alliance avec la Russie, préfacé par Piotr Tolstoï. Voilà.
Ouais. Qui est un descendant direct
ah, oui, oui.
de Léo.
Oui, oui.
De Léo Tolstoï.
De Léo Tolstoï, oui. Arrière-petit-fils.
Arrière-petit-fils.
Oui.
Très bien. Merci encore.
Merci, Président.
Merci, Claudia.
Vous venez d'entendre le Français en partage, dirigé par Albert Salon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 9 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.